RFI, il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal avec Édouard Dupénoit.
Et la une de l'actualité africaine en Côte d'Ivoire ce matin. Adoption par les députés d'un texte pour mieux encadrer les activités des organisations de la société civile. Mais les avis se divisent sur la pertinence de cette loi. Ainsi, certains opposants dénoncent par exemple une intrusion dans des affaires religieuses. On revient aussi bien sûr sur cet entretien inattendu au Qatar. Les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda réunis dans une même pièce. Et maintenant, quelle suite? Est-ce un nouveau processus diplomatique et pourquoi un tel succès de la part de l'émirat? Un leader peul assassiné en pleine rue à Bamako, Boubou Cissé, dit Boubou Tigal. Il dirigeait le marché à bétail de Niamana.
Deux colères d'opposition politique en Guinée et au Togo.
Oui, en Guinée, c'est l'UFDG, parti d'opposition, qui se divise sur la date de son congrès contesté en interne. Et au Togo, c'est l'ANC qui n'abandonne pas son combat contre la nouvelle constitution. Elle tente de fourbir de nouveaux arguments, vous l'entendrez. Tandis que le dossier de ce journal nous mène au Sénégal. Peut-on concilier rupture du jeûne du Ramadan et alimentation relativement saine? C'est une question de santé publique, on l'entend dans une dizaine de minutes. Les députés de Côte d'Ivoire adoptent donc un texte proposé il y a près d'un an par le président Alassane Ouattara, un projet de loi qui vise à contrôler la création et le fonctionnement des organisations de la société civile. Côté pile, les défenseurs de la loi y voient une bonne manière de contrôler des organisations aux activités douteuses, illicites, voire terroristes. Côté face, ces pourfendeurs déplorent une immixtion injustifiée, notamment dans des affaires religieuses, Bintadiagne.
Quels sont ceux qui sont pour son adoption?
Principal enjeu de cette plénière, voter pour ou contre le projet de loi visant à contrôler le fonctionnement des organisations de la société civile. Il n'y a pas de débat car l'ordonnance émise en juin 2024 par le président de la République ne peut pas être modifiée.
Pour les députés pour, nous avons 100 et ceux qui sont contre, 31.
Ce projet de loi vise à mieux organiser ce secteur avec le souci d'instaurer de la transparence. Les organisations de la société civile doivent notamment remettre un rapport d'activité chaque année à l'administration territoriale. L'opposition dénonce une immixtion, notamment dans les affaires religieuses. Soumeila Bredoumi, députée du PDCI.
Il faut qu'ils fassent des rapports, il faut qu'ils viennent les comptes. C'est des choses extrêmement difficiles à accepter, mais apparemment, le gouvernement pense qu'il faut suivre le blanchiment de l'argent dans les religions, les églises, les mosquées, les temples. Nous pensons qu'il y a d'autres voies pour le fait qu'ils sont un peu plus importants.
Pour le RHDP, parti majoritaire à l'Assemblée nationale, ce texte répond à des enjeux économiques et sécuritaires. Abdoulaye Ben Meïté, président de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale.
C'est des associations qui vivent dedans. Donc il est bon pour le gouvernement de savoir la source de financement de certaines de ces associations, de sorte effectivement à être vigilant dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière.
Le texte entrera en vigueur après son adoption au Sénat. Bintadiagne Abidjan, RFI.
Les affrontements entre le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés ont atteint hier la ville de Walikale. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, une ville à 200 km à l'ouest de Goma, dans l'est du pays. Toujours, les présidents Tshisekedi et Kagame ont certes convenu ensemble de la nécessité d'un cessez-le-feu lors de leur entretien avant-hier. Mais le processus diplomatique restera particulièrement sinueux, on vous le détaille sur RFI.fr. Reste aussi à savoir s'il continuera, oui ou non, d'impliquer le Qatar, l'émirat, acteur surprise de ces négociations, dont la présence autour de la table s'explique aussi par les bonnes relations qu'il entretient à la fois avec Kigali et avec Kinshasa. Le détail avec Lucie Mouillot.
Entre Kigali et Doha, les relations sont d'abord économiques, liées notamment au partenariat stratégique destiné à faire du Rwanda le centre de Qatar Airways en Afrique. La compagnie aérienne doit à terme acquérir 49% de Rwandair et 60% du futur aéroport international de Bugesera, un projet colossal en construction estimé à 1,3 milliard de dollars qui doit, dans sa phase initiale, presque quadrupler la capacité de l'aéroport actuel en termes de passagers. Partenaire de confiance, déjà facilitateur du transport et de la libération de Paul Rusesa Baguina en 2023, les autorités de Doha rencontrent régulièrement celles de Kigali. Fin janvier, après la prise de Goma par le M23, le ministre d'État des Affaires étrangères du Qatar se rendait au Rwanda. En février, c'est le président Paul Kagame qui se déplaçait pour une discussion bilatérale avec l'émir, un rendez-vous suivi par un accord préliminaire sur l'exemption de visa. visa pour les ressortissants des deux pays. Une relation privilégiée facilitant le rôle de médiateur entre le Rwanda et la RDC en soutien aux processus régionaux de Luanda et Nairobi. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Un assassinat à bout portant dans les rues de Bamako.
Oui, cela s'est passé avant-hier soir. Boubou Cissé, dit Boubou Tigal, qui a été abattu dans sa voiture. Deux hommes en civil à moto qui ont même pris le temps de prendre des photos de leur crime avant de déguerpir. Boubou Tigal, c'est une figure peule. Il était le chef du marché à bétail de Niamana, notamment connu pour son implication dans la réconciliation intercommunautaire. Par ailleurs, la fronde qu'il avait menée contre le déguerpissement des marchés à détail de Bamako lui avait valu d'être enlevé brièvement par la sécurité d'État au mois de novembre dernier. David Bachet, quelles sont les pistes possibles après cet assassinat?
Boubou Cissé, dit Boubou Tigal, s'était impliqué dans la mise en place d'accords intercommunautaires locaux dès 2019, dans des zones sous domination des djihadistes du Jnim, aux côtés du marabout Komani Tanapo. Il y a un an, le marabout était enlevé, torturé et tué par l'armée malienne et ses supplétifs de Wagner. Plus récemment, en novembre, Boubou Tigal avait passé plusieurs jours dans une prison secrète de la sécurité d'État parce qu'il venait de déclencher une grève pour protester contre le déguerpissement programmé des marchés à bétail de Bamako. Une source sécuritaire malienne assure toutefois que la sécurité d'État n'est pas impliquée dans l'assassinat de Boubou Tigal, expliquant à juste titre que les exécutions en pleine rue ne font pas partie des pratiques habituelles de la sécurité d'État. Cette source privilégie la piste d'un règlement de compte entre peules pour le contrôle du marché à bétail de Niamana. Des sources communautaires confirment que la place était convoitée par une frange plus proche des autorités de transition. Autre piste, celle du conflit foncier, une parcelle du marché de Niamana faisant l'objet d'un litige porté devant la justice. De sources sécuritaires maliennes, trois suspects ont déjà été interpellés dans le cadre de l'enquête.
David Bachet à 6h37, tout juste à Bamako, même heure à Conakry.
En Guinée à présent, c'est bisbille politique autour d'un congrès de l'opposition.
Oui, le sujet est assez complexe. Ce congrès de l'UFDG en l'occurrence, qui doit obligatoirement se tenir d'ici le mois de mai, faute de quoi ce parti d'opposition encourrait des sanctions. Sur le papier, tout semblait bon puisque la formation avait de fait prévu un congrès le mois prochain, les 19 et 20 avril, mais fin février, la justice guinéenne lui avait ordonné de suspendre l'événement après des plaintes en interne. En toile de fond, la bataille pour la tête de l'UFDG entre son actuel leader, Sélou d'Alain Diallo en exil, et son ancien camarade de lutte, Ousmane Gawal Diallo, lui qui avait été exclu du parti après avoir choisi de rejoindre le gouvernement de transition, une exclusion qu'il continue de contester d'ailleurs et de juger illégale. Le chargé de communication du parti, Souleymane Souza Konaté, martèle que le congrès se fera comme prévu. Il déplore, je le cite, une volonté de diviser les acteurs politiques pour faciliter le maintien du général Mamadi Doumbouya au pouvoir.
Le monsieur dont on fait allusion aujourd'hui est porte-parole du gouvernement. Ça fait 2 ans qu'il est au gouvernement, ça fait 2 ans que les moyens de l'État sont mis à sa disposition pour déstabiliser notre formation politique. Vous n'avez jamais entendu qu'un simple comité de base a pu démissionner d'un quartier pour allier M. Ousmane Gawal Diallo. Tout ce qui s'agit aujourd'hui autour de lui, c'est des gens qui ont bénéficié de quelques décrets de sa part. Il a même mobilisé récemment les dockers du port autonome, il s'est engagé à payer la caution du général Mamadi Doumbouya. Nous, à l'UFDG, notre volonté, ce n'est pas d'accompagner le CNRD et son président de transition dans sa dynamique de confiscation du pouvoir. La vocation de l'UFDG, c'est conquérir, exercer le pouvoir politique dans notre pays. Les gens veulent museler toutes les voies représentatives du peuple de Guinée pour permettre au général Mamadi Doumbouya de compétir avec des formations politiques qui ne représentent absolument rien sur l'échiquier politique national. En tout cas, au niveau de la direction nationale du parti, nous maintenons la date du 19 et 20 avril pour la tenue de notre congrès, espérant que les autorités vont essayer de mettre de l'ordre, n'est-ce pas, dans tout ce qui est fait actuellement, parce que nous n'allons pas nous plier à des ordres manifestement illégaux.
Souleymane Souza Konaté à la communication donc de l'UFDG, colère d'un autre parti d'opposition. Nous sommes cette fois au Togo, où l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, est toujours vent debout contre la nouvelle constitution, celle du mois de mai 2024, mais que l'ANC continue de dénoncer, je cite, comme un scandale. Le parti relève désormais plusieurs points qu'il estime contradictoires dans cette nouvelle loi fondamentale. Il s'appuie essentiellement sur les articles 50 et 54. Écoutez ce qu'en dit Isabelle Amegambi. Elle est la première vice-présidente de cette Alliance Nationale pour le Changement.
Voilà une constitution qui prétend instaurer un régime parlementaire où le président du Conseil n'est pas élu, où l'Assemblée nationale, qui est une institution composée d'élus, peut être mise à mal par le président du Conseil qui n'est pas élu. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que lorsque les Togolais exercent leur suffrage en élisant les députés à l'Assemblée nationale, celui pour lequel ils n'ont pas voté, lui, il a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale dont les membres ont été élus par le peuple togolais. Je crois que c'est quelque chose qui véritablement doit nous interpeller. Ce test-là, et on doit véritablement le combattre parce que il est très dangereux.
Isabelle Améganville au micro de notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé.
Le dossier de ce journal, Edouard, ressemble presque au Conseil Santé puisqu'on parle du ramadan et de l'alimentation.
Oui, avec la nécessaire mise en garde des professionnels de santé qui voient bien chaque année revenir les mêmes problèmes pendant et après le mois de jeûne. Ils alertent surtout sur la surconsommation de sucre rapide le soir au moment de la rupture. Cette consommation qui a d'autant plus de risques de poser des problèmes de santé que l'organisme n'a pas la possibilité de brûler ses sucres faute d'activité physique. C'est ce que nous explique d'abord la docteure Aïssatou Mamadou Fall. Elle est endocrinologue, diabétologue et nutritionniste.
Il y a énormément de sucre qu'on met dans le café, puis il y a le sucre qui avait dans les dattes. Il y a les jus de fruits qu'on boit en grande quantité pendant le ramadan, les viennoiseries, donc ça fait qu'il y a une grande charge de sucre qu'on mange au moment de la rupture, malheureusement, pendant le ramadan, ce qui fait également qu'on ne profite pas assez des bienfaits du ramadan. Parce que si on prend du sucre en très grande quantité, on prend du sucre, mais beaucoup de sucre, surtout les sucres dits rapides, dans la soirée. Alors dans la soirée, on fait très peu d'efforts, voire pas du tout. Il y en a qui ne font pas du tout de sport. Ce qui va se passer, c'est que le corps va prendre cet excès de sucre dont il n'aura plus du tout besoin. Il va le transformer en graisse pour le stockage. Et l'impact final, c'est que les personnes qui en consomment trop vont finir par prendre plusieurs kilos après le mois de ramadan au lieu d'en perdre. On se retrouve au final, si on a une pathologie comme le diabète, avec une hyperglycémie le soir, et on le voit très souvent. Sinon, on se retrouve avec certaines personnes chez qui des pathologies comme le diabète ou l'hypertension artérielle qui se révèlent pendant le mois de ramadan.
Aïssatou Mamadou Fall, endocrinologue et diabétologue. Il se trouve que les réseaux sociaux permettent pour le coup un travail de sensibilisation sur le sujet. On y trouve des comptes qui promeuvent une alimentation saine pendant cette période religieuse. Clé, reportage et rencontre Juliette Dubois.
Sur sa page Instagram Biwell, Ndeira Didia donne des conseils pour un dogou sain.
Salam alaikum, famille Biwell, j'espère que yéne gissi djam. Taïna ktiwal ndogou bi ak rer bi. Laïe bougo wartan ak yéne.
Cette coach en nutrition et restauratrice s'est rendue compte que beaucoup de ses compatriotes faisaient des excès alors que le repas du soir est un moment clé.
Il s'agira de rapporter des nutriments au corps, des nutriments qu'il n'a pas eu pendant la journée et dont il a besoin pour fonctionner, mais en sélectionnant ce qu'on va apporter. Juste après le moment de la rupture du jeûne, les premiers aliments qu'on va manger sont vraiment déterminants sur la manière dont le corps va les utiliser.
Il faut veiller à bien s'hydrater et limiter le sucre et le gras. Elle propose aussi des boxes de nourriture salée et sucrée pendant le ramadan avec des petits plats équilibrés pour se faire plaisir raisonnablement.
Là, nous avons des gâteaux avec de la patate douce et de la pomme. Et les cookies aux pépites de chocolat sont faits avec de l'avoine. Donc ce sont des choses sucrées qui restent très saines. Les tartelettes, c'est la même chose. Toutes ces tartes salées, la quantité de fromage que nous mettons dedans, elle est vraiment mesurée. Ça va pas être quelque chose qui va dégouliner de fromage.
Côté salé, Ndaï limite les cuissons à l'huile et favorise les légumineuses. Pendant le ramadan, il est conseillé de prendre 3 repas entre le coucher et le lever du soleil et de bien veiller à consommer suffisamment de fibres et de protéines. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
À Dakar, il est 6h44, RFI Matin continue et c'est avec Marion Cazanov.
Merci Edouard Dupénoit.